Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous. Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes dans l'émission Mode d'emploi sur toujours sur FPP 106.3 FM et vous avez bien entendu reconnu la voix de notre bien-aimé président Nicolas Sarkozy qui parlait des chômeurs ou des émeutiers. Lui en tout cas ne fait pas de différence. Bonsoir Christophe.
Bonsoir à tous. Oui, c'est un résumé, un très bon résumé humoristique de la pensée sarkozyste.
C'est rapide, clair, concis, c'est tel qu'on l'aime. Alors nous, on avait une annonce à faire, une proposition. On s'était dit que finalement, peut-être que notre président allait se proposer comme otage pour remplacer Liliane Bettencourt, Ingrid Bettencourt, pardon, prisonnière des FARC, et que comme c'était un héros et notre héros national, peut-être qu'il allait prendre sa place et qu'il était prêt à l'assumer. Donc je ne sais pas ce que ça vaut comme proposition, mais enfin il devrait y songer sérieusement. Voilà, et puis bon, après tout, peut-être que les Colombiens seraient heureux d'accueillir Nicolas Sarkozy en exil.
Ils découvriraient la jungle colombienne, ça fait toujours plaisir de voir du pays.
Absolument. Alors pour parler de choses un peu plus sérieuses, nous allons parler ce soir avec toi Christophe entre autres de la recodification du code du travail puisque le texte est passé à l'Assemblée nationale mercredi et que devant l'opposition des députés socialistes, il a été repoussé à mardi prochain. Alors nous on est allé interviewer Gérard Filoche. Gérard Filoche est l'inspecteur du travail qui est par ailleurs membre du Parti Socialiste, donc il nous explique un peu très très brièvement pourquoi cette recodification est une forfaiture, selon ses propres termes.
Donc bonjour, vous êtes inspecteur du travail, particulièrement bien placé pour connaître à la fois le code du travail et le travail de recodification.
Oui.
Alors en quoi vous estimez que la réécriture du code du travail ne s'est pas faite à droit constant ?
Bah écoutez, une recodification d'ordinaire, c'est un simple ajustement des numéros des articles, on évite les redondances, les répétitions, et on harmonise un peu le vocabulaire, c'est-à-dire que ça ne pose jamais de problème. La recodification est permanente en France, il y a même une commission supérieure de la recodification. Donc c'est très très banal, quand c'est fait honnêtement. Mais là, ça a été fait malhonnêtement. C'est-à-dire qu'ils ont passé le code du travail à l'acide. Ils en ont profité pour préparer l'arrivée de toutes les exigences du MEDEF et même de la libéralisation telle que le livre vert européen sur l'abaissement des codes du travail l'envisage. Ils ont déclassé les lois en décret, c'est-à-dire que les salariés seront moins protégés puisqu'on pourra leur enlever l'indemnité de licenciement sans même passer par le Parlement.
Alors, juste pour prendre quelques exemples concrets, alors par exemple pour le contrat de travail, est-ce qu'il y a des modifications d'importance
Il y en a eu, l'apprentissage n'est plus un contrat de travail, c'est un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Les apprentis vont être contents de savoir qu'ils sont plus protégés par le code du travail. Il y en a une deuxième, c'est les prud'hommes. Souvent c'est remplacé par autorité judiciaire. Eh bien, je vous dis tout de suite que comme ils veulent supprimer les prud'hommes, ils ont reporté les élections, ils suppriment 63 tribunaux prud'hommes sur 237, que cette belle justice du travail est en danger. Mmh. Et puis, c'est pareil pour l'inspection du travail. L'inspecteur du travail est remplacé par autorité administrative. On peut imaginer que ce ne sera pas forcément l'inspecteur sur le terrain qui décidera. Je peux vous citer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exemples où les salariés vont perdre des droits.
Alors, pour bien expliquer, en fait, c'est à partir du moment où on déclassifie et on place en partie réglementaire, on peut faire des modifications, donc par décret, qui ne passent pas à l'Assemblée nationale, mais ont des modifications qui peuvent avoir une influence dans tel secteur du travail, dans tel domaine.
Et... c'est pas qu'ils peuvent avoir, elles auront des influences. C'est un processus volontaire, conscient, manipulateur, menteur de la part de ceux qui ont fait cette recodification. Madame Parizeau, pour le par exemple, elle dit qu'elle ne veut plus le droit du licenciement, mais qu'elle veut la séparabilité. Et bien, si on enlève les indemnités légales de licenciement de la loi pour les mettre en décret, c'est pour permettre demain au gouvernement de faire plaisir à Madame Parizeau.
Sur le temps de travail, est-ce que vous avez constaté des changements notables?
Une décisive, doctrinale, c'est que la partie sur le temps de travail n'est plus dans la partie conditions de travail. Fait 130 ans que nous évoluons en associant la limitation du temps de travail à la santé des travailleurs, à leur bien-être, à leur vie familiale, aux accidents du travail, c'est maintenant totalement changé. C'est seulement dans le chapitre argent. Alors, écoutez, vous pourrez travailler plus, gagner plus, si jamais on vous le permet, mais on s'en fout de votre santé.
J'ai lu aussi que les sanctions pénales pour les employeurs avaient été supprimées pratiquement.
Oui, on nous dit qu'il n'y a plus de récidive. Alors on dit, ah oui, mais dans le code pénal, il y a des récidives. Bon, jusqu'à présent, elles étaient dans le code du travail. Moi, j'étais tranquille de savoir qu'elles étaient dans le code du travail. C'était mieux, c'était plus clair. Parce qu'il y a suffisamment de patrons délinquants comme ça pour qu'on les laisse pas aller. Hein. Au moment où il y a des caisses noires qui circulent dans le MEDEF, le UMM, avec des centaines de millions d'euros pour casser les grèves, j'aimerais bien que le droit pénal du travail concernant les employeurs soit renforcé et non pas allégé.
Alors juste sur la procédure, sur le passage à l'Assemblée, donc on a appris qu'effectivement le débat allait être porté à mardi, et que d'autre part, il y a deux choses. Il y a le recours d'abord contre le Conseil d'État, enfin auprès du Conseil d'État, qu'a déposé la CGT. Est-ce que vous pensez qu'il a une chance d'aboutir?
Si le Parlement vote, ça ne sera plus devant le Conseil d'État, ça sera devant le Conseil constitutionnel. C'est pour ça en fait que le gouvernement met les bouchées doubles, en essayant quand même de le faire voter, malgré l'opposition parlementaire qui est généralisée. Ça n'est jamais arrivé qu'il y ait l'opposition parlementaire sur des recodifications à droit constant. Et rien que ça devrait arrêter le processus. Voilà.
D'accord. Ok, écoutez, je vous remercie.
Je vous en prie.
Oui, c'était Gérard Filoche à notre micro. Donc j'en profite pour ne pas oublier Claude, notre technicien son qui a fait l'enregistrement. Alors on l'a entendu, Christophe, c'est un peu violent, quoi. Les mots, mais il faut bien admettre que cette recodification, au départ, ne devait absolument rien changer au code du travail lui-même. Elle a été entamée en 2005 par Gérard Larcher. Et c'était une ordonnance donc qui autorisait cette rédaction, et cette ordonnance doit être validée par l'Assemblée nationale, sachant que à partir du moment où on modifie le code du travail, la partie législative, on le modifie devant l'Assemblée nationale. Apparemment tous les députés de l'opposition ne sont pas d'accord.
C'est un véritable scandale démocratique, parce que comme tu le rappelles, on est dans un état de droit. Et le code du travail fait partie du droit. Or, première aberration, c'est une ordonnance, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun débat parlementaire, aucun débat démocratique sur le changement des droits constants de la vie au travail, ce qui concerne tout le monde, donc des millions de salariés. Donc ça, c'est déjà une première aberration. La deuxième chose, c'est qu'on est dans la pensée ultralibérale, je crois que c'est pire que les États-Unis, ce qu'on nous propose. C'est-à-dire que, progressivement, c'est pour éteindre la durée légale du temps de travail, c'est pour en mettre fin à tous les acquis sociaux, c'est-à-dire le SMIC, les 35 heures, etc. C'est-à-dire que, là, on découvre ce que c'est réellement la pensée ultralibérale sarkozyste.
Oui, en plus, alors sur la méthode, c'est-à-dire que comme on a tenté de l'expliquer, parce que c'est pas évident, c'est un texte qui est juridique, finalement, il suffit de reformuler certains articles, de déclassifier certains autres, pour donner une interprétation tout à fait différente au texte lui-même. Sans parler des changements en ce qui concerne l'administration du travail, alors c'est un terme un peu vague, mais on va dire l'inspection du travail et les prud'hommes, où en définitive, d'après Gérard Larcher, il sera tout à fait possible de contourner presque les prud'hommes. Et cet effet couplé à la suppression d'un certain nombre de conseils prud'homales, quand on connaît les délais, ça rendra tout recours au prud'homme pour les salariés presque, on va pas dire impossible, mais enfin dans des délais qui sont tellement longs que ça découragera tous les salariés simplement d'aller faire respecter leurs droits.
Alors ça c'est un premier effet, puis il y a un deuxième effet, c'est l'effet rétroactif, c'est-à-dire que je pense que beaucoup d'employeurs peu scrupuleux s'arrangeront, si c'est effectivement adopté et mis en place, au 1er mai 2008 pour remettre au goût du jour un certain nombre de contrats de travail. Donc on va avoir des surprises dans les branches. Je serais pas étonné que des conventions collectives donnant un certain nombre de droits soient complètement rognées, etc., etc., du fait de la réinterprétation. Sachant que ce qui est gravissime dans cette histoire, c'est qu'on est dans un flou, une ambiguïté juridique qui arrange énormément les employeurs, puisque du fait effectivement de l'effet couplé d'un manque de tribunaux prud'homaux, qu'est-ce qui se passera? Il se passera que pour qu'on ait des jurisprudences, ça prendra encore plus de temps. Donc je rappelle qu'un employeur aujourd'hui peut virer du jour au lendemain un employé pour faute lourde. Parce que c'est une manière que des fois qu'on fait, faute lourde, c'est pire que faute grave, c'est-à-dire carrément mettre un flingue sous le nez de l'employeur ou de casser la figure. Mais ça veut dire concrètement, pas droit aux indemnités acéliques, donc tu veux virer quelqu'un, tu fais ça, et puis t'attends qu'il crève socialement avec les dettes, et ensuite tu t'arranges pour un accord transactionnel, le virer comme ça, quoi. Donc il y avait des records prud'homaux, des référés d'urgence qui se feront, mais du fait de la baisse des tribunaux, ça sera de moins en moins employé par les juges, c'est un effet pervers qu'on aura forcément, avec toute l'ambiguïté des textes, quoi. Donc les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est, mais c'est une gravité extrême. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le salarié en France est en train de crever.
Voilà, donc effectivement, c'est un recul qui se rapproche du 19e siècle, dirons-nous, puisqu'on est en train de démolir progressivement toute la notion de contrat. Et on en reparlera évidemment dans 15 jours, puisque c'est dans 15 jours que prendront fin, en principe, les négociations entre le patronat et les syndicats. Et nous recevrons à ce moment-là le négociateur de la CGT pour nous en parler et nous parler principalement des modifications de contrats et notamment de séparations à l'amiable chères à Laurence Parisot. Alors tant qu'on est dans le travail ou le chômage ou la précarité, aujourd'hui on fait plus trop la distinction. Je rappelle que demain c'est la manifestation d'APES, de la CGT chômeurs et des MNCP, c'est-à-dire tous les mouvements précaires, évidemment contre le chômage et la précarité. C'est une manifestation pour la justice sociale. Donc c'est demain 8 décembre 2007, c'est à 14h place de la République. Venez nombreux. On espère tous que le temps sera un peu meilleur, histoire de que chômeurs et chômeuses, vous comptiez enfin et que vous soyez capables de défendre vos droits.
Je rappelle que la mobilisation pour cette manifestation annuelle est extrêmement importante, puisque c'est pas simplement le fait de juger un baromètre de température sociale, je dirais, mais de démontrer qu'on n'est pas des moutons qui acceptons qu'on nous rogne les droits du matin au soir et du soir au matin. Donc, même si vous n'avez pas l'habitude de sortir avec un parapluie, faites-le quand même parce que ça a de l'importance.
Merci. Alors, on va parler maintenant du pouvoir d'achat. Alors, comme vous avez tous écouté notre bien-aimé président Sarkozy, on va commencer effectivement par cette fameuse, entorse aux 35 heures qui est en train d'autoriser Nicolas Sarkozy. Alors, donc selon toi, Christophe, alors je dis selon toi, mais peut-être que tu vas donner tes sources, est-il le temps de travail peut-il se réduire comme cela, ou qu'a donc derrière la tête Monsieur Sarkozy?
Eh bien, Monsieur Sarkozy, on s'en doutait bien, il a une idée fixe en tête qui est l'horreur des 35 heures. Alors, je rappelle que la mise en place d'une durée de travail moins importante s'est fait avec des contreparties pour le patronat assez conséquentes, même très conséquentes. C'est-à-dire que, il y a encore 15 ans, on coûtait comme 8 heures avec l'inclusion de la pause. Dans le cadre d'une heure, en général, dans le cadre du temps journalier de travail. Or, ce n'est plus considéré dans les 35 heures.
Oui, c'est-à-dire que les pauses de 5 à 10 minutes sont décomptées désormais. Ça n'a l'air de rien, une pause de 5 à 10 minutes, mais pour les travailleurs, par exemple, à la chaîne, ça représente quelque chose de très important, en fait, au regard du rythme effréné auquel ils sont soumis.
Donc, c'en est trop, on n'a pas assez de productivité en France, ce qui est totalement faux, puisque nous avons, parmi les pays développés, la plus grosse productivité du monde, je le rappelle. hein, ce qui n'est pas sans conséquences, des conséquences sociales mais aussi sanitaires que dénoncent régulièrement les syndicats, notamment dans le cadre des métiers pénibles. Mais M. Sarkozy n'est pas assez content. En effet, les financiers, les actionnaires et rentiers qu'il adore, bref, le patronat et le CAC 40, souhaiteraient que ses fainéants de salariés travaillent encore plus. Donc, il a déclaré qu'il ne reviendrait pas sur cet acquis social. Sauf que il souhaite, dans le même temps, passer des accords majoritaires entre contreparties d'augmentation de salaire. Donc c'est tout simplement enterrer les 35 heures. Le problème, c'est que ce niveau de majoration des heures supplémentaires sera exonéré donc de charges sociales. Donc d'une part, c'est injuste parce que les gens qui ne travaillent pas ou qui sont à temps partiel n'en bénéficieront pas. Deuxièmement, il y a l'application de reprendre ses RTT. Contre une soi-disant augmentation de pouvoir d'achat, c'est quand même aberrant parce que l'idée des 35 heures, c'était quand même au départ, si ça devait être appliqué honnêtement, de permettre à des gens de rentrer dans le cadre du travail puisqu'il y avait une marge de temps de travail qui était rogné en échange de permettre à des personnes de pouvoir rentrer de façon durable sur le marché de l'emploi.
Ça, c'était la théorie.
Ça, c'était la théorie. Sauf que derrière, il y a eu la négociation avec la flexibilité. Donc, on a vu l'explosion de l'intérim et des contrats précaires qui sont 3-4 fois plus importants qu'il y a 20 ans. Donc, le patronat n'y a absolument pas perdu au change et évidemment, ils ne s'en vendent pas.
Et puis, il faut d'ailleurs rappeler que les 35 heures étaient au départ conçues pour les grandes entreprises, les entreprises de services, et qui pouvaient aménager ainsi leur temps de travail et en annualisant les 35 heures permettent par exemple de faire travailler les cadres ou même des employés à des horaires très contraignantes certains jours.
Absolument.
Contre effectivement un repos compensateur.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on a quasiment 4 salariés sur 10 en France qui travaillent le week-end. Ça, c'est un exemple concret d'effet qu'a sur la vie familiale de tous les jours.
Donc le patronat a gagné en flexibilité en quelque sorte grâce aux 35 heures.
Absolument. Mais voilà, l'ambiguïté de toutes ces exonérations de charges sociales, de reprise de RTT et d'heures compensatoires, on veut être remis en cause par M. Sarkozy, on s'en serait douté, sous prétexte fallacieux d'un soi-disant pouvoir d'achat dont ne profiteront pas les couches les plus modestes et les gens à temps partiel ou en intérim. Donc la conséquence de ça, c'est qu'il y a aujourd'hui un grand flou, sachant que l'orientation qui serait déclinée serait des accords branche par branche. Donc on va arriver progressivement à la fin légale de la durée du temps de travail, ce qui est l'objectif avoué de Nicolas Sarkozy sur ce point.
Donc la fin, oui, la remise en question complète des 35 heures, ce qui évidemment était un objectif du MEDEF.
À ce propos, j'en terminerai, c'est un article du Canard. Hein. Madame Parisot, pas représentant du patronat mais aussi de la bourgeoisie, a déclaré donc le 2 décembre sur Canal+, je cite, « Il faut envisager pour notre pays que la durée du travail sorte du cadre légal et soit définie entreprise par entreprise par accord entre les responsables des employeurs et les représentants du personnel. » Le problème, c'est comme le dit le Canard, reste à convaincre les salariés que ce qui est bon pour le BNF est aussi bon pour eux. Alors là, on arrive à un grand écart.
Voilà, alors je rappelle que d'après certaines enquêtes, effectivement, un certain nombre de salariés ne souhaitent pas travailler plus longtemps. Ils ont fait leur choix d'un niveau de vie moindre contre plus de jours de congé. Mais ça, associé avec la réforme du Code du travail, on a finalement un État qui déréglemente à tout va. Y compris le marché du travail, et donc qui laisse les mains libres aux employeurs pour s'organiser, pour organiser le travail et contraindre ses employés à travailler comme ils l'entendent.
Oui, c'est ça, c'est l'objectif final.
C'est l'objectif définitif. Bonsoir, vous êtes toujours dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'Agir ensemble contre le chômage. C'est sur FPP, bien sûr, 106.3 FM. Je rappelle que vous pouvez nous joindre au 01 40 05 06 10, 01 40 05 06 10, c'est régie en direct. C'était Caméléon, pas de concession. Ah, il fallait absolument que tu le dises, hein.
Ouais,
tu l'aimes
ouais,
ce groupe.
Oui, ce titre-là, parce que ça déligne bien la politique actuelle.
D'accord, donc pas de concession. Alors on va... Enchaîner sur toujours le pouvoir d'achat. Pourquoi le pouvoir d'achat ? Parce qu'on s'est aperçu qu'il était bien difficile de mesurer le pouvoir d'achat des Français. Alors, c'est pas moi qui dis ça, c'est l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, qui publie plusieurs études aux résultats tout à fait contradictoires. Donc, la dernière, pour ne prendre que ce chiffre, selon donc des modes de calcul très différents, on dirait que le revenu salarial moyen par personne aurait pratiquement stagné depuis 1978. Alors évidemment, comme dans la même période, le SMIC a augmenté de 37%, on a un peu de mal à comprendre, hein, ou les économistes ont un peu de mal à comprendre. Et puis le gouvernement, qui s'appuie toujours sur les études de l'INSEE, estime lui que le pouvoir d'achat aurait augmenté de 2,3% par rapport à 2006, notamment grâce au surcroît de salaire perçu par les chômeurs qui ont retrouvé du travail. Alors, on va essayer d'expliquer ça bien, et c'est pas facile. Bon, pourquoi on ne peut plus mesurer le pouvoir d'achat ? D'une part, c'est parce que l'indice des prix de l'INSEE n'a pas été calculé pour ça. C'est-à-dire qu'il a été établi pour calculer l'inflation. Deuxièmement, les salaires ne sont plus indexés sur les prix ou sur l'inflation. Depuis ce fameux décrochage, on a énormément de mal à... on peut connaître l'augmentation du SMIC, mais c'est un des rares salaires qu'on peut vraiment établir. Et donc, les enquêtes sur le patrimoine et sur les salaires de l'INSEE ne sont pas des choses très bien vues et très courantes, et très permises aussi, hein, et en plus très difficiles à réaliser. Mais il y a une dernière explication et qui explique la grande difficulté à calculer simplement, par exemple, hein, ne serait-ce que l'augmentation, le salaire moyen ou l'augmentation du salaire. Eh bien, c'est celle-là, c'est que le chômage a grimpé, de même que le nombre d'emplois précaires pendant cette période. Il y a, par exemple, 3 fois plus d'intérim qu'en 1978, on s'en serait douté, et de temps partiel qu'il y a 25 ans. Ça fait baisser la moyenne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut calculer le salaire par rapport le salaire moyen par rapport à aux personnes, par rapport à un actif, eh bien, il faut prendre en compte si ce monsieur travaille à temps partiel, il faut pondérer avec le nombre de travailleurs à temps partiel. Et ça, c'est très très mal mesuré, en fait, par l'enquête emploi, tout simplement, bien que on puisse le faire de façon un peu plus fine. Donc, ça fait baisser les moyennes. Alors, pour vous donner un contre-exemple, hein, en revanche, les bienheureux qui n'ont pas cessé de travailler à temps complet pendant cette période ont vu, eux, leur salaire réel croître de près de 20%. Et donc, en fait, ça donne une petite idée du décrochage entre, d'une part, une France qui est touchée de chômeurs et de précaires, et d'autre part, un monde du salariat à temps plein qui, lui, voit effectivement son pouvoir d'achat relativement augmenté dans une mesure tout à fait raisonnable. Et c'est pour cette raison qu'on a quand même toutes les difficultés du monde à établir un indice sérieux du pouvoir d'achat des Français.
Oui, par rapport à ça, il y a des aberrations, notamment le fait qu'on ne pondère pas avec la hausse du loyer l'augmentation du salaire. Puisque je rappelle qu'au début des années 80, le coût du loyer dans un salaire moyen était 18% et qu'aujourd'hui, il est plus de 30%. Donc ça a un vrai problème parce que ça permet de ne surtout pas justifier l'augmentation tout simplement du coût de la vie qui n'est pas pris en considération. Donc on a effectivement des gens qui gagnent parfois 50, 100, 150 euros de plus par mois sur la feuille de paie, sauf que cet argent-là est immédiatement ponctionné du fait des dépenses courantes. Donc que ça soit tout ce qui est du domaine de l'essence, que ça soit effectivement du loyer ou de la nourriture alimentaire de base, j'apprendrai simplement une chose qui est affolante et qui témoigne de la grande pauvreté de toute une partie de la population française, hein, aujourd'hui, c'est que le seuil de pauvreté à salaire constant serait d'environ moins de 1050 euros net par mois. Donc les smicards sont des pauvres, hein, contrairement à ce que disait monsieur Jean-François Copé, hein, qui était traité de riche, hein, je cite. Et enfin, qui sous-entendaient qu'ils étaient riches. Et parallèlement à ça, il y a le fait qu'effectivement, il y a toute cette précarité qui s'est installée et qui déclasse complètement toute une partie de la population en entraînant des salaires vers le bas, forcément, puisque aujourd'hui, chacun dans nos branches professionnelles respectives, on constate qu'à diplôme équivalent, avec même de l'expérience, on gagne moins que par exemple il y a 10 ans. En termes de biens de consommation courante.
Absolument, il faut préciser en plus que les salaires, dans les années 95, les salaires se sont effondrés. Donc ça, c'est un constat et qu'évidemment, nous gagnions beaucoup moins que dans les années 80. Oui, c'était un article du Canard hein, qui suit régulièrement les histoires, les études, disons les tribulations de l'INSEE. Donc on va y revenir tout à l'heure, mais on va faire un petit détour par les déclarations de Jean-Claude Trichet, le président de la Banque européenne, qui trouve que les salaires minimums pénalisent l'emploi.
Alors, ainsi réagissait Jean... C'était un article d'Actu Chômage. Ainsi réagissait Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale Européenne, dans le cadre d'un congrès des journalistes à Berlin. Bien que 70% des citoyens de l'Union Européenne soient toujours favorables à un SMIC généralisé, il faut savoir qu'en Allemagne, il n'y a pas de salaire minimum légal. Donc, s'exprimant sur le processus d'intégration économique et financière de l'Europe, M. Trichet, hein, qui rencontre les grandes huiles des banques centrales des banques européennes, mais aussi l'ensemble du grand patronat européen, a estimé que fixer des salaires minimums à des niveaux qui ne sont pas en ligne avec la productivité réduit les chances de trouver un emploi pour les travailleurs les moins qualifiés et les chômeurs. Et il ajoute, ça c'est intéressant, l'excès de réglementation en matière salariale affecte la création d'emplois, notamment pour les travailleurs jeunes et peu qualifiés, ainsi que pour tous ceux qui peinent à entrer sur le marché du travail. Alors, il faut savoir que cette idéologie qui cache le mot ultralibéralisme, déréglementation à tout va, loi de la jungle, etc., est en réalité un énorme mensonge, une couleuvre. Alors, ça, c'est intéressant que des institutions et un porte-parole déclarent officiellement une chose qui est totalement fausse.
Hein. Et qui, en plus, n'est pas forcément de leur compétence, parce que je rappelle que la Banque Centrale, en principe, son objectif, c'est de gérer la monnaie et pas forcément répondre les politiques européennes.
Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que certains des 21 pays de l'Union européenne ont adopté un SMIG et peuvent se vanter effectivement de leur faible de taux de chômage. On peut citer le Royaume-Uni, l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg. Ce qui prouve qu'il n'y a pas de corrélation entre l'application d'un salaire minimum et un recul de l'emploi. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est les conséquences de la mondialisation et des politiques de délocalisation et de jeux de monnaie, des spéculations financières et boursières, on l'a toujours dit. Les États-Unis ont aussi, je rappelle, un salaire minimum. Et évidemment, ça dément le fameux postulat inventé toute pièce par M. Trichet.
M. Trichet s'inspire directement de Marx et de Friedman qui ont rappelé que les chômeurs était l'armée de réserve du capital. Et
exactement.
Plus.
Car dans un contexte où le quantitatif se substitue sans cesse au qualitatif, hein, donc toujours du travail plus précaire et payé à moindre coût, la réflexion sur le lien entre taux de chômage, création d'emplois et généralisation de la précarité, le SMIC se contente hélas de limiter les dégâts en matière salariale. Sachant qu'avec le SMIC en France, et notamment en région parisienne ou dans les grandes agglomérations françaises, on vit pas, quoi, on survit. Donc ça, on l'oublie tout le temps. Hein. On connaît aussi l'ampleur du sous-emploi en Grande-Bretagne ou de l'autre côté de l'Atlantique, dont le lien avec le taux de pauvreté est lui aussi avéré. Mais ça, M. Trichet semble totalement l'oublier, puis il s'en moque. Hein. Et puis il y aura de travailleurs pauvres en Europe ou ailleurs, puis sa caste s'enrichira.
Voilà, et puis quant au taux de chômage américain ou anglais, il serait prudent de se plonger sur la façon dont sont faites les statistiques aux États-Unis. Pour évaluer le taux de chômage. Hein. Je rappelle que là-bas, les assédiques, en quelque sorte, c'est 6 mois dans toute une vie, et qu'on sort très très vite, une fois qu'on a fini de les toucher, de la catégorie des chômeurs, donc des vrais chômeurs, ceux qui cherchent activement un emploi, c'est la nouvelle définition européenne.
Alors, tout ça pour dire qu'une dernière réflexion de cette excellente brève d'actu chômage, il faut savoir qu'en France, le SMIC est devenu une trappe à bas salaire. Avec près de 15% du SMICAR, nous sommes en tête de l'Union européenne des salariés qui y sont malgré eux. Hein, alors, surtout notamment les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Hein. Et la cause, elle est très simple. Hein, notamment alternatives et les analyses alternatives économiques et de Bernard Maris le rappelaient, c'est que les allègements de charges qui, au lieu de favoriser l'emploi, le dévaluent inexorablement, puisque je rappelle que grâce aux politiques de messieurs Balladur, Raffarin, Chirac, Jospin, j'en passe, c'est des vertes et des pas mûres, c'est, le SMIC peut totalement être allégé de charges sociales. Donc pourquoi augmenter un salarié
de charges salariales
et patronales. Donc pourquoi payer un salarié mieux que ça, c'est tout simplement une arme de la bourgeoisie, du capitalisme, hein. On est désolé d'avoir une lecture un peu marxiste, mais c'est la réalité objective.
Oui, exonérer, t'exagères un peu, exonérer à peu près de 20%, on va dire. C'est pas, ou de 30%, c'est pas une totale exonération. Mais effectivement, en fait, c'est ce qui tire le salaire vers le bas, puisque...
Je rappelle d'ailleurs à ce propos que les Chinois, en termes de bien-être social, ont commencé à comprendre l'absurdité des salaires minimums et de la non-augmentation des salaires, puisque certaines enseignes, notamment McDo, Chine, et grandes entreprises chinoises, ont commencé à augmenter leurs salariés de base de façon très substantielle. Ça s'explique par le fait que nous avons un euro très fort et un dollar qui est en baisse, mais ils ont compris que c'était un vecteur de paix sociale d'avoir des salariés. C'est marrant parce que c'est une petite pointe. Nous, on est dans l'ultralibéralisme avec des acquis sociaux, un travailler plus pour gagner moins et pas avoir de retraite. Et de l'autre côté, ces gens qui ont mis en place une monnaie extrêmement faible profitent de la situation inverse en appliquant un peu le fordisme, c'est-à-dire des ouvriers qui sont contents. C'est pas des ouvriers qui manifestent, c'est des ouvriers qui travaillent, qui donc enrichissent un pays. Donc on va les payer correctement. Alors, c'est qu'un début, hein. On est toujours dans une dictature en Chine, c'est pas le bonheur. Hein.
C'est un reversement, et puis bon, c'est vrai qu'en Chine...
Mais c'est marrant de voir qu'il y a le contraire, quoi, dans un pays, dans une économie mondialisée, que les numéro 1 en termes de produits intérieurs bruts au niveau Asie et qui inondent le marché mondial appliquent des recettes qu'on voudrait absolument pas appliquer en France.
Oui, c'est-à-dire qu'on est, nous, on est passé dans une autre économie, voilà, une économie qui, effectivement, précarise ses salariés. Alors, je voulais signaler un article dans Alternative Économique qui s'appelle « L'entourloupe des chiffres du chômage ». Pourquoi cet article ? Parce que bon, il est écrit par Denis Clerc, qui est un des fondateurs d'Alternative Économique, et puis qu'il a fallu attendre quand même, grosso modo, la publication des chiffres de l'INSEE, donc avec 8 mois de retard, le rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales et de Bercy, dénonçant, donc, disant texto que les chiffres de la NPE étaient biaisés pour avoir enfin un article qui reconnaisse que les chiffres de la NPE étaient bidons depuis 2 ans, comme l'avait d'ailleurs signalé Sylviane Brutus. Or, Alternative Économique a souvent, dans ses éditoriaux, crié au complot sur cette question. Je vous le recommande parce que d'abord il est très clair. Ensuite, vous avez effectivement un graphique qui montre très très bien, qui s'appelle les trois courbes du chômage. Donc, qui montre d'abord le taux de chômage estimé à partir des demandeurs d'emploi, et donc ça baisse. Donc, qui, je le rappelle, était tout à fait artificiel. Hein. Désormais, on en est sûr.
La baisse, c'est la machine à radier.
Voilà, c'est la machine à radier. Voilà. Alors, il est regrettable qu'en fait, dans l'article lui-même, Denis Clerc n'utilise jamais le terme de radiation administrative. Il parle effectivement des règles administratives, des nouvelles règles administratives, mais jamais de radiation administrative, qui est évidemment la grande machine à faire exploser, à faire baisser le nombre du chômage. Mais on voit bien donc. À la fois le taux de chômage, hein, de l'INSEE NPE, le taux de chômage trimestriel de l'enquête emploi de l'INSEE, donc ancienne méthodologie, puisque la méthodologie a changé. Donc effectivement, et on voit bien le décrochage entre les deux courbes. Tu voulais réagir, Christophe ?
Oui, non, mais c'est Alternative Économique, c'est un journal qui est très bien en termes de vision économique globale, qui a des sujets très pertinents. Mais il est vrai que la forme de consensualité que s'impose ce journal les amène aujourd'hui un peu à faire du rétropédalage, un rétropédalage surprenant, puisque des personnes hautement qualifiées, voire même expertes, comme Fabienne Brutus,
Sylviane Brutus, qui n'est qu'employé qu'à NPE,
l'avait déjà fait avant, voilà. Ainsi que ACDC. Voilà. Non, mais je suggère à nos auditeurs de prendre les notes ta formation
c'est, ah oui absolument absolument
mais bon, chômage
sauf que là c'est une brochette de chercheurs et que c'est plus difficilement compréhensible
oui non mais voilà. les notes de synthèse sont assez claires et là ça on pourra mieux
c'est vrai mais là au moins voilà alors là effectivement donc il y a une troisième courbe qui apparaît donc au premier trimestre oui c'est le recalcul en fait bon qui est apparu récemment en fait qui est la méthodologie l'enquête emploi INSEE nouvelle méthodologie or donc et une courbe qui corrobore désormais les chiffres de la NPE. Donc c'est en toutes lettres dans l'article. Et donc, on reconnaît très bien que la nouvelle méthodologie de l'enquête emploi INSEE, d'une part, ne prend pas en compte alors des gens qui sont au foyer, qui sont à l'hôpital, des gens qui sont réellement retirés du marché du travail. Donc ça fait baisser de 0,1 ou à 0,2% le taux de chômage. Et que les 0,7% de baisse, c'est-à-dire pour corroborer les deux courbes, faire correspondre les chiffres de l'INSEE aux chiffres de la NPE, sont dus aux nouvelles définitions européennes, donc d'Eurostat, qui considèrent qu'aujourd'hui, qu'un vrai chômeur n'est pas seulement un chômeur employé inscrit à la NPE, mais un chômeur qui procède à des actes positifs de recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'en résumé, on va vers effectivement une définition qui est tellement restrictive que on a de quoi faire baisser le taux de chômage effectivement de au moins un point, au minimum, hein, ça risque pas de s'améliorer avec la fusion NPE-CEDIC. Et effectivement, de présenter une forme de taux de chômage qui est légèrement bidonné, en tout cas qui passe à côté d'une certaine réalité des inactifs, pour le coup.
Oui, et puis, par contre, je pense que globalement, l'opinion publique n'est pas dupe. C'est-à-dire que quand on nous présente le chiffre catégorie 1 des chômeurs tous les mois, 95% des gens qui écoutent savent très bien que c'est bidon, quoi.
Voilà.
Donc c'est.
Non et puis bon, on l'écrit bien. Hein. Je veux dire là c'est vraiment écrit en toutes lettres. Il est quand même assez curieux que la nouvelle méthodologie INSEE finisse par, comme par hasard, coller absolument à des chiffres à NPE qui ont eux-mêmes été déclarés plus valides.
Oui, non, mais c'est voilà.
Donc ça résume assez bien. Alors bon, on va finir là-dessus hein, parce qu'on a d'autres sujets, mais comme c'est un sujet qu'on traite quand même ici régulièrement, on passe un peu de temps dessus. Je vais vous lire la fin de l'article parce que ça vous donne quand même une petite idée de comment on peut dire les choses. Il ne s'agit évidemment pas de critiquer les décisions techniques de l'INSEE. C'est une bonne chose que d'appliquer les mêmes règles que les autres pays européens pour compter le chômage. Non seulement cela rend les données internationales plus comparables au sein de l'Union européenne, mais cela élimine une source de confusion, les données françaises n'étant jusqu'ici pas identiques à celles publiées par Eurostat pour la France, puisque la définition du chômage n'était pas la même. Alors bon, bravo, on a juste à... Bon, il ferait bien de se... Alternative économique, il ferait bien de se pencher sur les définitions européennes, hein, sur les définitions du chômage et sur les politiques européennes de l'emploi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors il suit ce qu'on appelle un chapeau, un insert pardon, qui dit une crédibilité entachée, mais il aurait été quand même plus honnête de dire haut et fort que durant un an et demi, les chiffres publiés par le ministère de l'Emploi avaient été erronés. Nous on a dit bidonné, bon c'est juste une question de vocabulaire, et que les commentaires enthousiastes de Jean-Marc Sylvestre et de quelques autres n'avaient pas lieu d'être. Avec le recul, on peut se demander s'il n'était pas bien raisonnable pour l'INSEE de nous priver ainsi de toute information fiable sur l'emploi et le chômage pendant un an et demi, empêchant ainsi toute analyse sérieuse des évolutions récentes et laissant le terrain libre aux battleurs de foire. Je ne sais pas à qui il s'adresse, mais enfin les battleurs de foire, les dix battleurs apprécieront. Aujourd'hui, la cacophonie est telle que l'INSEE a perdu dans ce domaine une partie importante de sa crédibilité. La cacophonie non, puisque les choses sont absolument très claires, enfin... Mais il y a juste une manière de les interpréter. Et visiblement, on n'a pas la même. Voilà. Et il faut quand même noter que depuis, il est vrai que le chômage a réellement baissé. Il a réellement baissé du fait du retournement démographique et des départs à la retraite des baby-boomers.
Et puis des radiations administratives qui représentent tous les mois 50% des chômeurs en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut carrément être radié si on arrive un quart d'heure en retard avec une convocation.
C'est tout à fait possible, mais il faut espérer en tout cas que la méthodologie INSEE, elle, ne prendra pas en compte ces radiations administratives et qu'elle restera fixe, qu'elle permettra donc de mesurer l'écart. C'est un espoir et un souhait. Voilà, et au fait, messieurs d'Alternative Économique, j'espère que vous savez quand même que, entre-temps, le directeur de l'INSEE a été remercié par monsieur Sarkozy parce qu'il n'a publié ou qu'il n'a pas publié son étude sur le chômage, on ne sait pas, sur l'emploi.
Une étude sur le chômage doit être sarco-compatible.
C'était hier, samedi jour de paye, et le soleil se levait sur nos fronts. J'avais déjà vidé plus d'une bouteille. Bon, le l'école en prison pour un rien. C'est pourtant lui qui fait tourner le bastringue, le grand bastringue du métropolitain. C'est pourtant lui qui fait tourner le bastringue, le grand bastringue du métropolitain.
Bonsoir, vous êtes toujours sur FPP, c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs pour les chômeurs. C'était Riton la Manivelle, le mitinge ou le meeting, ça dépend comment, de quel côté de la Manche on se trouve, du métropolitain. Rebonsoir Christophe.
Rebonsoir à tous.
Je crois que tu veux nous parler d'un détecteur de mensonges pour les chômeurs qui est appliqué en Angleterre.
Et oui, logique ultralibérale et poncif et topo journalistique de propagande dominant à tendance sarkozyste, point d'interrogation. Évidemment, on nous ressort le fameux couplet « Les chômeurs, c'est les feignants, les glandeurs et les méchants ». Puisque France 2 a aussi le droit de savoir, dans un climat de désinformation grandissant, la stigmatisation du chômeur se poursuit aux heures de grande écoute. Il y a eu un mercredi 5 décembre, donc à 3 jours de la manifestation, qui aura lieu donc demain à 14h à République, je vous le rappelle. David Pujadas, présentateur, nous a effectivement mis sous les yeux, j'ai envie de dire, les étranges méthodes de l'Angleterre pour gérer ses chômeurs, puisque nous présentait les nouvelles méthodes de contrôle des chômeurs en Grande-Bretagne. Alors il disait, je cite, hein, la comparaison est intéressante car vous le savez, la France veut revoir tout le système en fusionnant l'ANPE et l'UNEDIC. Le Conseil des ministres vient d'en adopter le projet de loi. Et là-bas, à Londres, les vérifications vont très loin. Les services sociaux traquent le travail au noir et les demandeurs d'emploi sont même soumis à des détecteurs de mensonges. Et alors, c'est marrant parce que la narratrice, la façon dont c'est présenté, c'est impossible de se soustraire à ce rendez-vous. Toutes les deux semaines, James, graphiste sans emploi, vient ici rendre des comptes. Cette conseillère va donc lui demander des justificatifs prouvant qu'il cherche vraiment, grande pause lourde de signification, un travail. La conseillère du Job Center. S'il n'a pas cherché du travail pendant les 15 jours précédents, ses allocations seront suspendues. Je suis désolé, j'ai pas l'accent anglais. La narratrice qui reprend. Et c'est bien ce qui pourrait arriver à James s'il continue à jouer les dilettantes. James, chauve, barbe blanche, la soixantaine bien entamée. Si je l'avais croisé dans la rue, j'aurais juré que c'est un retraité. C'est vrai que je ne cherche pas vraiment. Je manque un peu d'énergie en ce moment. La narratrice, des chômeurs strictement encadrés et même parfois traqués, s'étant quand même diffusé sur les télévisions, prévient les faux chômeurs. On vérifie aussi grâce à un détecteur de mensonges s'ils disent bien la vérité. Alors, moi, j'ai envie de dire, comme le précise Stéphane du site Actu Chômage, un petit retour sur Arrêt sur Parole, donc 3 jours avant la manifestation des chômeurs, ce fameux sujet sur la traque des faux chômeurs dans un pays voisin qui se passe à côté de chez nous. Bah comme ça se passe à côté de chez nous, ça pourrait se passer bien chez nous, hein. Bah oui, logique. Ah bah imparable comme chose. Bon, voilà, c'est intéressant comme oui, mise au point et comme je dirais instigation
médiatique.
C'est absolument
ce qu'il veut nous parler. Donc on va parler tout de suite après l'auditeur de qu'on va recevoir justement de la fraude fiscale, des cotisations à payer, histoire de comparer qui sont vraiment les fraudeurs. Tout de suite, on a une auditrice en ligne. Bonsoir.
Bonsoir, ce sera un auditeur.
Ah, excuse-moi, j'ai une belle voix féminine là pour finir la soirée.
Salut Joël.
Désolé, salut.
C'est le rêve, hein, désolé.
Ah, je suis désolé, je croyais que c'était Denis Clerc qui allait appeler et qu'on allait pouvoir s'engueuler à l'antenne, mais bon.
Bon, j'espère que vous allez bien.
Bah écoute, on essaye, même si on n'a pas trop le moral, je t'avoue.
Oui, non, mais ça, j'entends bien. Ça,
Ouais, t'entends le temps de l'émission, là.
Non, mais bon, c'est vrai que le climat est...
Est lourd.
Est assez difficile actuellement.
Et alors
En revenant, je vous écoutais et vous parliez des trappes de bas salaire.
Ouais.
Il faut savoir que, parce que j'en fais partie, et en plus les petites entreprises, peut-être toutes les entreprises d'ailleurs, ont le droit sur les bas salaires à une réduction de charges, parce que on dit que la main d'œuvre sur les bas salaires est trop chère.
Oui.
Donc ils ont, moi en ce qui me concerne par exemple, mon patron, il a comme réduction de charges autour de 300 euros par mois.
Ouais. Sur une fiche, enfin, brute de combien à peu près?
Moi je compte sur un net, hein, sur un net ça fait autour de 1235 euros.
Donc 1200, donc ça lui fait 1000, ouais, c'est beaucoup quand même. Hein.
C'est pas
ça
mal quand
1500,
même.
Ça fait effectivement, ça réduit ça.
Ça fait, donc ça c'est tous les mois quasiment. Parce que on nous dit, enfin on nous dit, les, ces fameux économistes hein, qui savent, nous disent qu'effectivement, ben, plus effectivement, le, moins le salarié est qualifié, plus la main-d'œuvre est chère. Oui, donc effectivement, c'est... il faut aider les entreprises à s'en sortir, quoi.
Absolument.
Joël, j'ai une petite question à te poser par rapport à ton entreprise. Ton entreprise a eu un bénéfice net après impôt de combien l'année dernière ?
Alors ça, c'est une bonne question, et là, là, on voit où la démocratie d'entreprise s'arrête, puisqu'on ne sait rien. On est trois malheureuses personnes dans cet atelier, mais on nous dit rien. Alors moi, j'avais posé la question justement, mais on me dit.
Ces chiffres ne sont pas publics, c'est-à-dire que t'as aucun moyen de les connaître.
Voilà. Alors que c'est quand même assez malheureux. Il y a trois personnes, donc on peut nous dire.
On peut
nous dire quand même ce qu'on. En plus, parce que c'est avec la sueur de notre front quand même que ces chiffres sont faits. Hein.
Ouais.
Et j'ai entendu ce soir qu'apparemment Monsieur Sarkozy veut encore aider les petites et moyennes entreprises parce qu'il y aurait une astuce autour effectivement des charges une fois de plus. Ça serait autour du fameux. Il paierait plus à 90 jours, mais à 60 jours.
60 jours.
Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Il essaye de trouver plein d'astuces puisqu'il a tellement donné au départ à.
Je veux pas me faire l'avocat du diable, hein, Joël, mais moi, on peut à la limite avoir conscience que finalement, c'est les PME ou les petites entreprises qui souffrent plus que les grands groupes, hein, et que les exemptions fiscales sont surtout, ont été longtemps réservées aux grands groupes, et que les petites entreprises n'ont pas forcément les assises financières. Donc, Je sais pas si tu vois aider les petites entreprises, peut-être que c'est pas la pire des solutions, parce que si on
fait le compte, les dirigeants des petites entreprises, ils aident pas leurs salariés, quoi. Mais bon, ça
oui, parce que c'est dans une petite entreprise justement, donc c'est très familial. Mais pour finir là-dessus, les réductions de charges, enfin les exonérations de charges coûtent à l'État quand même quelque chose comme 60 milliards. Donc ça représente énormément, hein, c'est presque le déficit, enfin le déficit annuel là cette année est estimé à peu près à 40 milliards. Et effectivement, enfin certaines personnes s'étaient émues du fait qu'elles étaient données sans aucun contrôle sur la création d'emplois.
Mais je fais confiance à la justice de mon pays. Je pense qu'ils retrouveront les 26 millions qu'a essayé de mettre de côté Monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac. Mais bon, je fais confiance à la justice de mon pays.
D'accord. Bah merci.
Voilà.
Merci Joël. Ces témoignages. Et courage à toi pour les 26 millions.
Il faut te battre et puis travaille bien.
Ou plutôt Euromillion, je crois qu'on pourrait les retrouver.
Oui, peut-être bien, ouais.
Voilà, et puis cuisine ton employeur quand même parce que c'est anormal, la démocratie d'entreprise, la démocratie sociale.
Voilà, allez, salut Joël.
À bientôt.
Au revoir.
Oui, alors donc on va essayer de faire vite, il nous reste 5 petites minutes. Donc on voulait vous signaler un article du Monde qui est paru aujourd'hui et qui donne enfin raison. D'abord, qui explique bien la tonalité de la campagne présidentielle. On a eu une campagne anti-assistana telle qu'on n'en avait jamais eu. Et puis, qui, rétrospectivement, donne raison à nous, pauvres petits chômeurs, de nos discours enflammés. Pourquoi ? Il s'appelle fraude fiscale, cotisation impayée, travail au noir, le grand écart des évaluations. Bon, le titre est... Bon, on n'est pas très clair, mais le contenu l'est. Alors, il faut savoir que, par exemple, on estime à peu près à 40,2 milliards d'euros, soit 1,7% et 2,3% du produit intérieur brut, PIB, entre 29 milliards d'euros et 40 milliards d'euros, les fraudes, prélèvements fiscaux et sociaux. Et on entend par là principalement les fraudes à la TVA, les fausses déclarations de revenus et le travail au noir qu'on a beaucoup de mal à évaluer. Alors je précise quand même qu'il existe d'autres rapports de l'inspection générale des finances qui sont beaucoup plus élevés, hein, qui se montrent autour de 50 milliards, oui, voilà. Et que en ce qui concerne la fraude à l'impôt sur le revenu, le syndicat national uni, alors qu'il compte pas forcément les opérations illégales, c'est-à-dire qu'il compte il compte plutôt l'évasion fiscale, c'est-à-dire qu'il compte dedans les 440 niches fiscales, les domiciliations à l'extérieur, c'est un peu compliqué, mais bon, lui, il le chiffre ça à 62 milliards d'euros, donc ça fait pas mal.
Oui, c'est
voilà.
Ça. Hein.
Donc ça fait beaucoup. Et, écrit le journaliste du Monde, ça entraîne quand même un manque à gagner, donc important, entre 8 et 15 milliards d'euros. En comparaison, la fraude et les pratiques abusives concernant les prestations sociales versées aux particuliers et aux familles, assurance maladie, RMI, CMU, etc., selon des critères de ressources, pourraient paraître d'une dimension plus faible. Ça, on s'en serait douté. Et il cite l'exemple de, des fraudes à l'assurance maladie. Donc, en fait, ça représente exactement 1% des dépenses maladie. Et on est dans un... Alors, il faut rappeler qu'en juin 2006, Nicolas Sarkozy, en pleine campagne électorale, avait avancé une estimation entre 7 milliards d'euros et 14 milliards d'euros pour les fraudes aux prestations sociales, hein, c'est-à-dire aux dépenses de santé.
C'est totalement faux.
Voilà. Et évidemment, ce chiffre, selon le journaliste, toujours, ce chiffre serait en fait la transposition d'une évaluation réalisée en Grande-Bretagne, estimant le montant de la fraude à 2 ou 3% de l'ensemble des prestations. La réalité semble éloignée de cette hypothèse, écrit Le Monde. En 2 ans, la Caisse nationale d'assurance maladie a débusqué un peu plus de 200 millions. C'est tout.
Ouais, ouais. Hein, et en général, c'est des réseaux mafieux très organisés. C'est la
d'euros de fraude et d'abus, soit 1% des dépenses d'assurance maladie.
Donc, voilà. C'est pas les chômeurs, les précaires et les travailleurs en mauvaise santé qui coûtent cher à l'État. Hein.
Absolument, mais
c'est le patronat.
On le martèle, et il faut vraiment le marteler à tous les gens dans la rue, parce que de son côté, l'INEDIC estime à 140 millions d'euros le préjudice subi dans les fraudes en réseau. Donc les grosses fraudes, hein, les fraudes vraiment où des procédures lourdes sont engagées, ce qui représente pour l'année 2006 0,54% du montant des prestations.
Ah oui, mais alors, c'est pas les chômeurs, les précaires, les travailleurs pauvres et les salariés qui fraudent. C'est voilà, le patronat qui fraude. Mais oui, quand t'as de l'argent, t'as pas envie de verser aux autres. Il faut parler
de la fraude à la TVA et de la fraude à l'impôt sur le revenu. Donc voilà, et pour vous dire le climat dans lequel on est quand même, c'est que sans attendre, Éric Ciotti, député UMP des Alpes-Maritimes, m'a proposé lundi 3 décembre la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales. Alors, c'est ambigu, prestations, c'est ce que c'est. Cotisations, il parle principalement de la TVA et de l'URSSAF et des choses comme ça. Enjeu social, mais aussi moral, écrit-il, qu'il évalue, lui, entre 20 milliards et 40 milliards d'euros. On ne sait pas d'où il sort ces chiffres. Cette initiative a été appuyée, évidemment, par 120 députés de la majorité. Plusieurs dispositions ont déjà été adoptées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, des amendes planchers, blablabli et blablabla. Voilà. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a
jusqu'à la prochaine amnistie à la Raffarin. Voilà.
Absolument.
C'est tout.
Voilà, et d'autant qu'on a dépénalisé, on est en voie de dépénaliser le droit des affaires et qu'on est bien parti. Et donc voilà, c'est un article qui est dans Le Monde d'aujourd'hui. Procurez-vous-le, c'est tout à fait intéressant. Contre les discours anti-assistanat.
On fait les petites annonces.
Voilà. Ouais, je t'en prie.
Alors, on vous le rappelle tous et tous contre le chômage et les précarités. Manifestons pour la justice sociale. Samedi 8 décembre 2007, 14h, place de la République, Paris, à l'appel des mouvements de lutte contre le chômage et la précarité, c'est-à-dire AC, APES, CGT Chômeurs, MNCP, association et un ensemble d'associations en soutien, qui va de AC Le Feu, Apnée, Actu Chômage, ATMF, Attaque, CDL, CNF, Convergence des Défenses des Services Publics, Coordination des Sans-Papiers, 93, DAL, Droit Devant, etc. Donc je vous rappelle que votre présence est largement souhaitée à cette manifestation, puisque plus nous pourrons être nombreux, plus cette manifestation... Il y aura en plus les marches européennes avec, et plus nous serons nombreux, plus évidemment nous pourrons espérer nous faire un peu entendre dans un grand monde
de
brut. Ultra-libéral.
Merci, je voulais dire faire un petit coucou aux étudiants qui ont essayé d'occuper les locaux du journal Le Monde mardi 4 décembre pour alerter l'opinion publique sur le traitement médiatique des médias à propos de la mobilisation étudiante et lycéenne. Bon courage les gars, la prochaine fois essayez d'occuper France 2 en direct, ça sera plus intéressant, ou France Inter. Démerdez-vous quoi, faites comme les intermittents du spectacle.
Allez, bonsoir à
tous,
bye bye.
Et à la semaine prochaine.